Salut et bienvenue dans cet épisode de rentrée de Deux Connards dans un bibliobus. Alors cet épisode on l'a enregistré il y a quelques temps, avant l'été, avant les élections, avant tout ce bordel. Donc si ça manque un peu de blagues sur Michel Barnier et Bernard Cazeneuve, vous inquiétez pas, c'est normal. On a eu aussi des petits soucis au moment de l'enregistrement, donc il manque 2-3 petits bouts de phrases dans l'épisode, vous allez voir, notamment au tout début, où on va prendre un peu en cours de route Quentin qui nous explique des trucs, mais on vous fait confiance, vous allez gérer. Allez, bon épisode!
Julien. Que notre métier n'est pas mû par des idéaux humains, mais par une conscience supérieure, celle de la lecture publique, de ses règles et de la responsabilité collective qui nous engage tous et toutes à respecter ce lieu sacré qu'est la bibliothèque.
Ok Gérald, du coup, non ?
Ouais, ça marche aussi, ouais. Ouais, parce que la question quand même, c'est de se dire, mais on passe beaucoup de temps à dire que notre métier, il a un petit côté d'impuissance.
Ouais.
Mais est-ce qu'on peut vraiment être impuissant si on a le droit de punir les gens ? Est-ce que nos petites amendes là qu'on distribue à gauche et à droite, c'est pas quand même un moyen de rehausser le métier de bibliothécaire et de montrer qu'on a vraiment de l'impact ? Moi, je me dis que si à la fin du mois, j'ai quand même réussi à empêcher quelqu'un, par exemple, d'acheter une place de cinéma parce qu'il a une amende, j'ai vraiment réussi à faire avancer la cause de la culture.
Ok, donc là, on est passé en mode turbo-autoritaire, c'est parti.
Bah, écoute, bienvenue dans l'épisode 25, deux matons en biblios 11.
Ouais, repens-toi de tous tes péchés.
En voiture, tout le monde!
J'espère qu'on fera un voyage tranquille.
On aime bien punir, hein.
Alors oui, du coup, on parle de quoi en fait en vrai là pour être un peu plus clair.
Et si on parlait du fait que en bibliothèque, on a quand même un problème avec l'exercice de notre pouvoir vis-à-vis des usagers,
ouais.
Et qu'on crée parfois incidemment beaucoup de violences sociales sans s'en rendre compte, parce qu'on a tout un tas de règlements qui nous incitent fortement à le faire. Qu'on parlait des amendes, mais que ça se diversifie de bien des manières,
ouais.
Et que les amendes c'en est peut-être d'ailleurs l'un des éléments les plus représentatifs, parce qu'il y a peu de choses plus inégalitaires qu'une amende. Il y a peu de choses aussi plus absurdes dans la manière de penser, la manière de récupérer nos livres à temps, par exemple.
Ouais, carrément.
D'ailleurs, un exemple, si on s'arrête 2 secondes sur la question de l'amende, c'est un article de Archimag qui documente la Pennsylvanie,
mmh.
Où après l'arrêt des amendes, il y a eu 240% de retour de livres supplémentaires. Donc
ouais,
on mettra le lien de l'article dans l'épisode. Mais c'est vraiment ça qui est très intéressant. C'est la manière dont on a une logique punitive qui n'est pas seulement pas éthique, elle l'est, on y reviendra, mais qui est aussi pas efficace.
Ouais.
Et du coup, au cœur de ça, comment est-ce qu'on met en place quelque chose qui est à la fois pas bien, pas efficace ? Pourquoi ça en arrive là ? Et c'est la question, je pense, de nos règlements et de notre capacité à mettre en place tout un tas de règles, qu'elles aient du sens ou non.
Ouais, c'est ça. On a beaucoup parlé de violence symbolique à plein d'endroits dans le podcast, à plein de niveaux. Là, on parle de violences qui sont pas du tout symboliques, hein, qui sont en espèces sonnantes et trébuchantes, qui sont vraiment des violences sociales. Hein, c'est-à-dire que c'est pas efficace pour le but qu'on lui donne, pour l'objectif qu'on lui donne, qui est de faire en sorte que les gens respectent les lieux, respectent les documents, respectent les services, les machins, etc. Par contre, c'est terriblement efficace pour exclure une partie de la population.
Et sans faire tout un épisode sur Foucault, parce que on peut peut-être partir du principe que toute son œuvre sur la question de la punition, c'est peut-être un peu plus large que le strict schéma des bibliothèques et qu'on va pas prétendre que les bibliothèques sont une représentation fiable et à part entière de la société.
Ouais.
Mais si on en reprend un petit morceau, c'est quand même la question de qui est-ce qu'on veut pas dans une bibliothèque,
ouais, ouais.
Et pourquoi est-ce que, étonnamment, beaucoup des règles qu'on met en place, sans le dire clairement, ont quand même plus ou moins cet objectif-là. Et ça, pour le coup, je trouve ça hyper intéressant, dans la manière dont on se met en place plein de couches réglementaires qui visent quand même, sans le dire, à exclure des gens.
Ouais, carrément. En fait, il y a un côté de l'exclusion tolérable. C'est OK d'exclure des gens qui ne feraient plus partie du cercle communautaire admis. Et donc, la liste, elle se fait relativement facilement. Hein. Les gens qui font preuve de violence. OK, c'est facile de se dire, si t'es violent, si tu mets un pain dans la gueule d'un bibliothécaire, c'est normal qu'on te dise de te casser.
Bien
quoi.
Sûr.
OK. Si t'es violent verbalement, si tu commences à insulter les gens.
Ouais, mais attends, si t'es violent verbalement parce que t'es neuroatypique en fait, et que là fondamentalement ta violence verbale en fait c'est que t'es en plein dans une phase de crise, et qu'en fait paradoxalement la bibliothèque c'était quand même un lieu où t'étais safe sinon. T'as le droit parfois de péter un câble en bibliothèque quand simplement bah t'es neuroa et que là tu vas pas bien.
Exactement, ouais. Et puis c'est quoi le mot qui est le plus trigger? Est-ce que si quelqu'un te traite de oh vraiment t'es un connard, est-ce que ça passe? Est-ce que si on te traite de d'enfoiré, ça passe aussi? Est-ce que c'est quoi la limite?
Et si jamais c'est un adolescent et que en fait comme tous les adolescents de 13-14 ans, il va te manquer de respect parce que ben en fait t'es une figure d'autorité? Et que c'est la vie, camarade.
C'est ça, ouais.
Et que peut-être qu'on est tous un peu des enfants du CDI qui n'allaient pas faire l'épreuve de l'autorité à la bibliothèque quand on avait 13-14 ans.
Ouais.
Mais que c'est aussi un fonctionnement qui est documenté simplement de grandir,
absolument,
en fait, de défier l'autorité.
Mmh.
Et puis, bon, bah, du coup, sur les pénalités de retard.
Bah oui, bien sûr, parce que en fait quand tu fais ça, tu monopolises un bien commun. Le bien, il est collectif, il est commun, on te le prête, tu ne l'as que en gestion en propriété partagée pendant quelques temps, pendant 4 semaines, voilà. Faut le rendre hein, sinon ouais. t'es puni quoi.
Et bon, il y a des petits alinéas à ça, par exemple, moi mon expérience d'une bibliothèque dans des quartiers un peu riches où littéralement tous les mois, on avait une petite famille qui venait avec 6 enfants.
Ouais.
Ils avaient toujours du coup systématiquement parce que l'époque, les durées de prêt étaient inférieures à un mois,
ouais.
Une dizaine de livres par enfant qui étaient en retard, dans un schéma où en fait les enfants, bon, ça bloquait la carte pendant une semaine, mais ils n'avaient pas besoin de payer l'amende.
Mmh.
Et dans tous les cas, où ils avaient tous leur petite tenue de judo, tu vois, c'était leur cours de judo mensuel, c'était mignon.
Mmh.
Et où j'avais cette maman qui venait me faire un chèque pour toutes les cartes des 6 enfants, donc tous les mois ça représentait à peu près entre 30 et 40 euros. Tu vois,
putain,
d'amende cumulée. Et je me souviens très bien de ces discussions en mode, mais madame, vous en faites pas, on va juste bloquer la carte une semaine, tu vois. Elle est en mode, mais non, mais pas la peine. Et tu vois, le chèque que t'es fait, de manière détendue. C'est vrai que par rapport à des quartiers peut-être un peu plus populaires, comme on dit, où j'ai bossé, et où tu vois la sentence de mort, en fait, dans une amende de 15 balles.
C'est que l'amende de 15 balles, elle dit, je reviendrai plus.
C'est ça. Alors que ton pauvre, t'es quand même là pour le responsabiliser, normalement.
Ouais.
Hein. Donc pourquoi mon pauvre, il avait pas l'air responsabilisé, il avait l'air au bout de sa vie? Je sais pas. Et on lui a expliqué au pauvre, en fait, que là, il est pas en train d'être banni des bibliothèques pour toujours, mais qu'il est en train d'être responsabilisé. Mmh. Le mien, il avait pas l'air très au courant de ce qui est en train de se passer.
Ça a l'air extrêmement caricatural comme discussion, mais c'est des discussions qu'on peut avoir et qu'on peut avoir en particulier avec des élus. Là, pour le coup, c'est vraiment des verbatims de prise de parole publique d'élus et pas forcément les plus réactionnaires, débilos, fascistos que tu peux imaginer. Des élus de partis de gauche classiques qui disent, bah ouais, mais bon, on va pas supprimer les amendes de retard, quoi, parce qu'il y a un moment, il faut quand même que les gens ils soient responsables.
Puis bon, l'avantage des amendes de retard, en plus, c'est que, mine de rien, au bout du compte, ça tombe quand même dans la caisse de la bibliothèque. Donc, c'est quand même hyper important pour...
Alors justement, en fait, pas vraiment.
Ah ouais?
Ben non.
C'est fascinant, ça, qui l'eût cru?
Ben ouais, c'est bizarre, hein, mais voilà, ouais. Non, voilà.
Tu veux dire que la bibliothèque se retrouve à faire appliquer une violence sociale dont elle ne bénéficie même pas par des effets de bord sur la capacité, par exemple, à remplacer ses collections des livres, du coup, qui seraient pas rendus?
C'est ça.
Mais c'est fou quand même.
Ça dépend des endroits. Après, là, on est en train de faire une généralité, mais ça dépend des endroits. Mais il y a effectivement plein d'endroits où ça part au trésor public local. Et voilà, quoi.
En plus, je trouve que ça nous met souvent dans la même position en tant que professionnel. C'est-à-dire qu'on a en place un règlement qui est hostile aux gens, qui est vraiment hostile. Sur, par exemple, ces questions des amendes, mais ça peut être tout un tas de choses. Par exemple, toutes les politiques anti-SDF qu'on va trouver en bibliothèque qui sont, c'est-à-dire toujours souvent des choses autour de l'hygiène des gens,
ouais,
autour de l'odeur, autour machin, où tu comprends, c'est un lieu d'accueil, on peut pas se plaindre d'avoir des gens qui sentent pas très bon. Et en fait, où tu comprends bien que c'est juste que la bibliothèque elle est à côté d'une gare et qu'on ne veut pas avoir des SDF, quoi.
Ouais.
C'est qu'en fait, on se retrouve toujours à se dire qu'on va être protégé par ce règlement, parce que c'est pas facile d'avoir un public de SDF. D'ailleurs, c'est objectivement pas facile d'avoir un public de SDF. C'est pas pour dénigrer, en fait, les collègues qui sont parfois pas à l'aise avec un public difficile. Hein. Mais par contre, c'est se mettre dans des situations où t'es à l'accueil, tu vois bien cette personne en face de toi qui est en train de dévisser parce qu'elle a une amende, parce que bah oui, c'est le sans domicile là, à qui on vient d'expliquer qu'il doit partir parce qu'il sent pas très bon, ce qui est déjà d'ailleurs un des trucs les plus horribles à faire à un être humain, mais passons.
Ouais.
Et la personne, elle est en train de dévisser, elle est en train de péter un câble, et t'es le réceptacle de cette colère, et tu te mets du coup dans une situation très absurde où tu te mets à détester cette personne, de te renvoyer dans les cordes de la personne que t'as pas envie d'être, qui est celle qui fait appliquer ce règlement. Et en fait, t'as cet effet presque de radicalisation autour des règlements, quand tu t'es fait défoncé 20 fois par un usager autour d'un point de règlement, et ben en fait t'as plus tellement envie de le lâcher, ce point de règlement, parce que tu t'es tellement battu pour t'as tellement eu besoin, en fait, d'en faire une pratique de ton quotidien, même hostile, que t'es obligé de le rationaliser. Mmh. Que t'es obligé d'en venir au fait que si jamais t'as vécu autant de colère et d'hostilité à ce sujet-là, c'est quand même que ça devait avoir du sens.
C'est ça, et que le règlement devient, en fait, un bouclier protecteur. Un bouclier protecteur qui, s'il n'est pas mis à jour, s'il n'est pas renouvelé tacitement, s'il n'acquiert pas une existence vraiment inscrite dans le marbre des lois fondamentales de la collectivité dans laquelle tu bosses, ça te met en danger, en péril, toi. Et là où ça devient vraiment paradoxal, c'est quand tu as des inscriptions au règlement liées à des faits divers, c'est-à-dire qu'il y a une agression et tout d'un coup, il y a un nouveau point au règlement qui apparaît parce qu'il y a un usage qui a amené à cette agression-là. Et t'es 15 ans plus tard, ton équipe c'est plus la même, tes usagers c'est plus les mêmes, les élus ils ont déjà changé 4 fois depuis, et en fait plus personne ne se souvient pourquoi il y a cette putain de règle à la con, mais il faut pas ne plus l'appliquer, parce que ne plus l'appliquer c'est tomber dans l'anarchie, quoi.
Ça me fait penser à une expérience sociale. C'est une petite expérience qui a été menée. Tu vas dans un zoo. Déjà, ça commence très mal. Hein, quand il s'agit de reproduire des schémas aux humains, mais franchement, elle est quand même marrante à raconter en tant qu'anecdote. Alors là, on va pas aller dans la science la plus pure. Tu prends des singes, tu les mets dans une cage, et tu mets un petit escabeau en haut duquel t'as une banane. Évidemment, t'as un des singes qui va monter en haut de l'escabeau pour tenter de prendre la banane.
Bien sûr.
Il y a des jets d'eau qui aspergent tous les singes, parce qu'en plus, c'est difficile en France, je pense, de produire de l'expérience sans traumatiser des animaux, mais c'est un autre sujet. Donc tous les singes sont éclaboussés, c'est l'horreur, les jets d'eau à haute pression, bref, pas le meilleur moment, tu vois. Donc les singes réessayent une fois, à nouveau les jets d'eau, assez rapidement se met en place l'idée que quand quelqu'un touche la banane, blâme, punition. Du coup, tu vas changer un des singes parmi les cinq, et t'en fais venir un qui a pas vu ça.
Ouais.
Il va aller vers la banane, qu'est-ce qui va se passer?
Il va se faire défoncer la gueule par les quatre autres singes qui, eux, savent ce qui va se passer.
Très bien. Et après, tu commences à remplacer les singes un par un.
Ouais.
Et à chaque fois, t'as le même truc. C'est-à-dire que t'as un nouveau singe qui arrive et qui se fait casser la gueule par les autres. Mmh. Jusqu'au moment où t'as plus aucun singe qui a été témoin du fait qu'il y a des jets d'eau de pression. Et pourtant, ils vont quand même casser la gueule des singes qui essayent de prendre la banane.
Ouais, c'est ça.
Et t'as ce truc avec nos règlements, en fait, c'est à quel moment t'as peur du jet d'eau et à quel moment ta règle, elle a encore du sens. Parce qu'il y a presque ce schéma, en fait, de inscrire un truc dans un règlement, ça le rend intemporel. Une loi au règlement, elle est jamais contextualisée. C'est jamais dit à cause de recrudescence de nous prenons cette décision parce que blablabla. C'est toujours dit... Vous ne pouvez pas faire ça dans la bibliothèque. Et puisqu'elle n'est pas contextualisée, elle est intemporelle. Mmh. Et ce qui est intemporel, en fait, c'est sacré.
Ouais, il y a cette idée de la loi sacrée. C'est pour ça qu'il y a une nécessité de compléter les règles et règlements qui sont des objets qui nous échappent. Sur laquelle on a très peu la main. On peut faire des propositions de règlements, mais à la fin, elles sont entre les mains des tutelles politiques qui les votent, qui les votent pas, qui les amendent, qui font ce qu'ils veulent avec. Mais il y a la nécessité de compléter ce bordel-là qui est inamovible par un guide, quoi, par des discussions collectives autour des pratiques. Qu'est-ce qu'on fait dans ce truc-là? Qu'est-ce qu'on fait en accord avec le règlement, en désaccord avec le règlement? Et comment on trouve des pistes, quoi?
Des règles, d'ailleurs, qui peuvent être mises en place avec les usagers. C'est la Bibliothèque des Champs Libres qui avait mené, par exemple, un gros travail avec leurs usagers, notamment tout un champ d'usagers d'adolescents, en fait, non francophones, qui étaient en galère, en fait, pour s'y retrouver dans les règles de la bibliothèque.
Bien sûr.
Et où ils ont mené un super taf avec eux de mise en place de règles, et où, ça a très bien marché, en fait.
Ouais. Après, c'est peut-être qu'à des moments, ça marchera un peu moins, peut-être que, parce que les situations, elles évoluent, et que, encore une fois, rien n'est intemporel.
Je trouve que ça serait un super jeu de se poser avec le règlement de ta bibliothèque.
Ouais.
Et de se demander si tu sais pourquoi tes règles, elles ont du sens. Et il y en a, ça sera évident, encore une fois, on ne dit pas qu'il faut tolérer la violence physique sur les collègues, hein. C'est une évidence. On veut surtout pas rentrer dans un truc de vous dire accepter tout et n'importe quoi. Mais par contre, si dans votre règlement, il y a marqué que c'est interdit de boire et manger.
Ouais.
Ça, c'est un truc qui revient tout le temps.
Ouais, carrément, c'est un truc touchy.
Est-ce que ça a du sens, interdiction? Pourquoi on avait décidé ça? Est-ce que c'est parce qu'on a vécu des trucs horribles dans le passé? Mmh. Dans ce cas, peut-être que c'est pas un argument, en fait. Ou alors c'est un argument qui doit être contextualisé? Où est-ce qu'on a vécu des trucs horribles? Dans quel cadre?
Mmh.
Est-ce qu'il y a des endroits où on pourrait boire et manger? Qu'est-ce que ça voudrait dire de pouvoir boire et manger dans la bibliothèque au niveau de la convivialité qu'on peut mettre en place? Et que ça, ce serait hyper intéressant de se demander aussi du point de vue de l'usager. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux pas boire et manger dans ta bibliothèque. Concrètement, t'es un parent, il est 16h. Dans quel univers tu vas revenir de l'école, aller faire goûter tes enfants chez toi, leur enlever les affaires, les machins, les trucs, puis remettre toutes les affaires et repartir à la bibliothèque.
Ouais. Mais tu sais, ça marche aussi en BU. Hein. T'es un étudiant, tu viens taffer, t'as prévu de passer la journée dans la bibliothèque. À quel moment t'auras pas besoin d'un café, d'une petite confiserie, d'une connerie pour tenir la route et alimenter un peu ton jus de cerveau, quoi.
Et ça te met dans des situations, du coup, où tu crées des truands, en fait. Parce que cet étudiant, c'est pas quelqu'un qui veut te truander par essence. C'est pas une mauvaise personne. C'est une personne qui a des besoins physiologiques et tu l'empêches d'y répondre, en fait. Et du coup, quand tu surprends l'étudiant et tu soupires parce que soudain, en fait, il y a des miettes dans les bouquins, bah peut-être que si l'étudiant n'avait pas eu besoin de manger son pain au chocolat caché sur ses genoux avec le bouquin à côté, et qu'en fait, du coup, il était autorisé à bouffer, qu'il pouvait le faire dans une assiette, et que vu que les gens peuvent manger, t'as une petite balayette à côté, bah ça se serait bien passé, en fait.
Grave, grave. Il y a un autre aspect aussi qui est intéressant, qui est l'application. C'est-à-dire que les règles et tout ça, c'est immanent, ça vient d'une autorité supérieure, c'est incroyable, ça s'applique à tout le monde, c'est universel et tout et tout et tout. Mais à un moment, il faut bien les appliquer, ces règlements. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a bien quelqu'un qui va dire « Attention, tu as enfreint la loi, tu as enfreint la règle et donc tu vas subir une sanction ». Ça, c'est la façon dont peut-être ce que tu disais en début, c'est peut-être une des façons qu'on a, nous, d'explorer notre pouvoir, notre capacité à agir sur le monde, d'avoir un effet palpable sur les usagers, sur le monde, sur tout ça. Mais il y a aussi des fois où on se défausse de cette capacité-là. Et je pense notamment au moment où on a de la sécurité. On a des vigiles de sécurité, privés, pas privés, de la mairie, de ce que tu veux, etc. Et où bah, des interdictions qui peuvent être aussi absurdes que boire et manger. Encore une fois, dans les cas où ça ne s'applique pas, où c'est très paradoxal d'interdire le boire et manger. Si tu laisses le vigile gérer l'interdiction du boire et du manger, tu vas jamais constater le paradoxe. Tu vas jamais pouvoir voir le déséquilibre qui existe entre ce que ça t'apporte et ce que ça te coûte. Le fait que ce soit un générateur d'embrouilles, de tensions, de conflits potentiels avec des gens qui viennent. Le fait que ça en chasse des gens. Et donc du coup, le fait d'avoir délégué cette punition, cette application de la loi, du règlement, de ce que tu veux, ça fout la merde. Et il y a eu des expériences, je me souviens plus à quel endroit, où on a dit « Ok, ok, dans le règlement, on met interdiction de boire et manger, mais par contre, c'est les bibliothécaires qui vont appliquer le règlement ». Et je crois que le règlement n'a pas tenu très longtemps. Parce que oui, ça t'amène à doser et à te dire « Ah, en fait, ça me coûte beaucoup plus que ça ne peut me rapporter. »
Et c'est pas qu'un truc d'être le cliché de « Je suis un bibliothécaire, je suis fragile, j'ose pas dire non. Hein. » C'est pas du tout le truc. C'est le fait de se dire qu'en fait, quand on fait l'épreuve concrète du poids d'une interdiction, quand on voit face à nous la violence que ça génère, en fait, ça nous oblige à réfléchir. Que quand on peut déléguer la violence, en fait, étonnamment, on nous est beaucoup plus supportable.
Demandez à vos ministres de l'Intérieur de tutelle. Le fait de devoir appliquer ses propres points de règlement, que ce soit faire payer des amendes, je veux dire, c'est aussi tout le monde a été dans cette situation au moins une fois dans sa carrière, mais c'est pas une situation qui est évidente, quoi. On est face vraiment à la réalité de ce qu'on a fantasmé quand on a pris une décision collective ou quand on est au courant de tel ou tel point de règlement ou de machin, et de se dire ah ouais, en fait, voilà, cette petite ligne dans le règlement, cette petite ligne dans mon guide d'accueillant, en fait, elle a pour finalité ce truc-là. Dire il est interdit de faire tel truc et il y a une personne qui fait tel truc, et bien du coup, ça veut dire qu'à un moment, moi je suis dans une situation où il va falloir que j'aille dire à monsieur machin ou madame machin, vous avez failli, vous avez péché et je vais vous faire expier.
Et ce qui est très intéressant, c'est que quand tu crées une victime, tu crées aussi un bourreau.
Et, ouais.
Et que personne n'a envie d'être dans ce rôle du bourreau. Et que malheureusement, quand on se met dans des situations comme ça pour défendre des choses qui, en plus, nous semblent absurdes, on se met dans le rôle de quelqu'un qu'on ne veut pas être. Et que ce rôle de quelqu'un qu'on ne veut pas être, en fait, ça va nous affecter. C'est-à-dire que si tu passes 15 ans à t'enfermer dans ce rôle du bourreau, bah, tu vas quand même créer un ressentiment. vis-à-vis de ces gens, dont t'as le sentiment très injuste que ce qui t'a mis dans le rôle du bourreau, c'est non pas ce règlement absurde, mais c'est la personne qui a fauté face à toi.
Ouais.
Quand même, tu trouveras que ce règlement soit absurde. Mais on a vraiment cette tendance à, quand on vit une injustice profonde, à avoir besoin de trouver la personne, à besoin de trouver le coupable. La logique du bouc émissaire derrière, elle est hyper forte.
Ouais.
Et si j'ai le sentiment de devenir une personne horrible, c'est beaucoup plus dur pour moi de me dire qu'est-ce qui fait que je deviens une personne horrible. C'est beaucoup plus simple de me dire si jamais ces usagers y rendaient leur livre à temps, ouais, et ben je serais pas obligé d'en arriver là. Tu sais, c'est un peu la logique paternaliste en fait, de j'adorerais ne pas te punir, mais j'ai pas le choix, tu sais.
Ouais. J'avais une collègue il y a quasiment 20 ans quand j'ai commencé à taffer en bibliothèque. Sa spécialité c'était d'appeler les grands retards. Et il y avait vraiment cette façon d'incarner ce truc là quoi. C'était vraiment un truc que personne voulait faire parce que c'est extrêmement désagréable d'aller appeler les gens et leur dire ah je suis désolé vous avez oublié votre truc. Et en fait ça l'est pas pour tout le monde. Cette collègue là je pense qu'elle a été transformée au fur et à mesure de son exercice de ça et elle y prenait un plaisir qui était manifeste et qui était manifesté, c'était vraiment le côté je vais les appeler spécifiquement le samedi matin quand j'arrive, etc. Et ce sera le coup de fil et tout ça. Et je vais être vraiment dans ce rôle de je suis la maman et vous m'avez beaucoup déçu.
Il faut pas oublier, mine de rien, qu'en fait on est juste bibliothécaire. Concrètement, un retard de livre, un usager très en retard, une petite incivilité d'un adolescent à l'espace jeu.
Ouais.
En fait, bah c'est pas grand-chose.
Ouais.
Et que fondamentalement, si on se met dans des situations où on va perdre un usager plutôt qu'un livre, c'est là qu'on est en train d'échouer. Et que c'est un peu difficile de se le dire, mais que perdre un bouquin, tout aussi ennuyeux que ce soit, bah ça vaudra jamais... Alors là, je vais faire ma petite naïveté de bibliothécaire éclairée.
C'est cheesy time, ouais.
Mais ça vaudra jamais, en fait, le fait d'avoir dégoûté un adolescent à vie de la bibliothèque parce que tu l'as humilié verbalement après qu'il t'ait rendu son petit Les Misérables emprunté pour son exposé de quatrième à moitié défoncé parce que le truc était au fond d'un sac d'école plié en deux.
C'est ça, ouais, clairement.
Ça me rappelle une nana au Canada qui travaille dans un foyer pour personnes sans domicile. Et elle a mis en place des règles colorées. Attention. Ouais. T'as les règles vertes qui sont en fait ce que t'as le droit de faire concrètement. Aucun problème, let's go. Et puis on l'affiche clairement ce que t'as le droit de faire. Parce que généralement, un impensé, c'est vu comme une interdiction.
Ouais.
Y a les règles rouges.
Ouais.
Les trucs, c'est impossible. Tu
Red
fais
flag.
Ça, tu sors du foyer. Là, vraiment, c'est fini. C'est la violence physique. C'est certains trucs comme ramener, par exemple, des drogues dures. C'est spécifié dur. C'est quelques trucs où vraiment, en fait, ça met en danger le cadre commun d'une manière tellement irrémédiable que ton droit à le faire ne passe pas avant la possibilité du lieu de devenir pérenne.
Ouais.
Et t'as les règles oranges. Ces règles où c'est interdit. Mais en fait, on peut parler. C'est le fait que le foyer, après 21h, tu peux plus rentrer dedans. Parce que c'est plus pratique pour le foyer, évidemment, d'avoir une heure où tu peux fermer la porte. Mais parfois, la vie, elle fait que là, t'es sans domicile, que tu viens de l'autre bout de la ville et que tu seras là à 22h12. Et là, c'est le moment où, en fait, ta règle, elle doit s'apprécier aussi.
Ouais.
Selon le contexte de la personne, selon les critères. Et ce qui est marrant, c'est que ça peut sembler une logique de l'arbitraire, alors que si tu prends la justice française, elle est individualisée.
Absolument.
C'est-à-dire que même si on prend la justice avec son J majuscule, la justice, c'est pas un règlement. La justice, c'est un cadre légal. Ouais. Les peines, elles sont perçues à l'aune des gens auxquels elles s'appliquent. Et je trouve ça très drôle, du coup, qu'on se pare de ce manteau de la justice immanente quand, en fait, on fait tout le contraire avec nos règles qui s'appliquent à toutes les personnes de manière indifférente.
C'est un enjeu fort, d'ailleurs, dans la pensée autour de la justice, plutôt du côté à droite de la chose, d'essayer de systématiser les choses en disant « Ah, il y a tel fait et du coup, il y a telle peine et c'est automatique !» Et l'automatisation, c'est vraiment le truc le plus bâtard de la Terre, quoi. Parce que, en fait, il y a très peu de choses qui rentrent dans ce cadre du fil rouge dont tu parles. La plupart des choses, c'est dans l'épaisseur du trait de crayon, quoi. On est dans cette zone de négociation et d'appréciation, suivant le contexte, suivant qui on est, suivant le, etc., etc. Et il y a plein d'aspects là-dedans qui sont hyper importants.
Et puis, toutes ces règles oranges, c'est justement l'occasion aussi de faire, alors ça sonne très grandiloquent, mais faire de la pédagogie de la règle, en fait. Je veux dire, c'est se donner l'occasion d'expliquer aux gens pourquoi, en fait, il y a cette règle et en quoi c'est un enjeu pour nous. Et que c'est beaucoup plus facile de faire ça quand on n'est pas en train de dire « c'est hors de question », et d'ailleurs, je vais vous dire pourquoi, mais quand on est en train de dire « bon, ça ira pour cette fois-ci, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi ce que vous êtes en train de faire concrètement au quotidien, c'est pas toujours évident pour moi. » Et ça, pour le coup, c'est quelque chose d'hyper entendable. Mais c'est tellement plus simple à mener ces conversations sous l'angle de « voilà en fait ce que c'est mes problèmes personnels » à aller jusqu'au bout de cette petit écart au règlement. Ouais. Parce que cette règle, elle a un sens, mais je vois bien quand même que cette règle, elle a un sens dont l'enjeu n'est pas supérieur au fait que vous ne vouliez pas revenir chez nous. Et ça, c'est un moyen hyper fort aussi, je trouve, de faire comprendre à un usager qu'il est le bienvenu.
Parce que c'est aussi... il faut pas tomber non plus dans le truc de dire il y a les gentils, il y a les méchants, quoi. L'application de se dire ok, ça c'est une règle orange, ça veut dire que je peux l'appliquer si je suis de bonne humeur ou je peux pas l'appliquer si je suis de mauvaise humeur, c'est pas ça. Il faut vraiment revenir à un truc de c'est un cadre collectif qu'on va discuter et on parle de négociation. C'est une zone négociable, c'est-à-dire que suivant les contextes, la décision, elle va s'apprécier de façon différente. Et l'important, pour moi, ça revient un peu... attention. Pour moi, la bibliothèque, c'est un peu une institution anarchique. C'est-à-dire que c'est l'idée d'avoir l'ordre, mais sans le pouvoir, sans les enjeux de pouvoir. L'ordre, c'est important de garantir un cadre, c'est important de garantir, et attention, je la fais pas à la Macron, hein, c'est pas l'ordre, hein, tu vois, c'est important que les choses soient à peu près carrées, qu'il y ait un cadre qui garantisse à chacun une place dans le bordel, que chacun puisse accéder à des services, que chacun puisse trouver sa place sans se sentir emmerdé, etc. Et dans chacun, je parle aussi des bibliothécaires, aussi des professionnels. Mais, ce dont il faut se débarrasser, c'est des enjeux de pouvoir. C'est de dire, moi j'ai une place qui me permet d'influer sur la vie de machin. Je peux te pourrir la vie si j'ai envie, ou je peux machin. Et jouer avec ces trucs-là, c'est ça qui est le plus dangereux.
C'était marrant parce que quand j'ai fait la recherche sur le sujet, j'ai trouvé beaucoup de fils de discussion, principalement anglo-saxons mais pas que, autour de la question du règlement et notamment des amendes, qui est vraiment le marronnier de ces sujets de règlement. Et beaucoup des discussions, ça portait pas du coup sur le bien fondé de ces règles, ça portait sur leur application. Et je me souviens notamment d'un fil Reddit. Alors je suis désolé, Reddit, ça devient mon nouveau go-to de veille professionnelle, mais c'est vraiment intéressant. En demeurant plus l'anglo-saxon d'ailleurs, malheureusement, parce que la communauté est beaucoup plus grande, mais bref. Et t'avais un fil où t'avais quelqu'un qui expliquait du coup que c'était très compliqué parce que il y avait eu un changement de modalité sur le paiement des amendes. Je crois que c'était quelque chose de type en dessous de 12 ans, t'étais exempté d'amende. Et que ça, ça avait sauté. Que les amendes étaient inférieures à celles des adultes, mais qu'il fallait quand même les payer. Et la personne se posait le cas de que mettre en place dans le règlement comme ligne supplémentaire pour faire face aux incivilités que vivaient les bibliothécaires suite au changement de ce règlement. Et c'est là que je trouve que c'est très intéressant, en fait, l'empilement là-dessus de règles que tu te mets à devoir mettre en place, parce qu'en fait, tu t'es toi-même foutu dans un trou. Et que du coup, en fait, ton règlement ne devient plus nourri par ce que tu voudrais être la vision de la bibliothèque, ce que tu vois comme ton enjeu dans ta communauté, ce que tu as comme ton objectif, mais comme une manière de te protéger de ton règlement. Et il y a peu de choses que je trouve plus aberrantes comme manière de se désarmer, en fait, que de créer un règlement qui crée de la violence, puis de créer un règlement qui est de plus en plus punitif avec la violence que t'as toi-même contribué à mettre en place. Et c'est ce truc horrible, hein, de se dire que, évidemment, les collègues qui sont dans cette situation, c'est pas du tout le responsable, parce que c'est très rare qu'un règlement soit voté par les collègues en présence dans une bibliothèque.
C'est sûr.
Mais ça pose la question, bien sûr, de ton application. Ce qui veut pas dire se mettre dans une situation intenable où on se met à désobéir à un ordre direct en permanence. Ce qui veut dire que quand on est face à quelque chose qui nous semble profondément injuste, ça doit évidemment être un sujet de négociation. Mmh. On a des syndicats, on a des cadres professionnels. Il y a des études, notamment, qui ont montré un peu ce que c'est l'enjeu concret autour de ces amendes et ça doit être des choses qu'on doit pouvoir sortir et amener sur la table comme un sujet.
Ouais, et du coup, il y a aussi pas mal de docs. Alors là, c'est un peu un sujet à côté, mais qui est malgré tout assez parlant, qui est le fait de rendre payant ou pas les inscriptions à la bibliothèque. Et il y a l'ABF qui a fait un gros boulot là-dessus, un gros boulot d'advocacy, mais pas que. Enfin voilà, il y a plein de textes qui ont été écrits là-dessus, qui peuvent permettre de construire un dossier argumentaire pour dire, ok, on sent que vous, les élus, vous avez sans doute un bordel, vous avez envie de dire que c'est important de faire MIC ou MAC ou j'en sais rien, mais dans la réalité du vrai monde, attention, ça veut dire une condamnation de telle et telle catégorie de personnes à ne plus venir, à ne plus profiter des services de la bibliothèque, et au final, bah, vous financez un service public qui ne fonctionnera plus, quoi.
Et parce que derrière toutes les questions d'argent, quelles qu'elles soient en bibliothèque, se pose forcément la question de qui a le droit de venir dans la bibliothèque. Mmh. Même si c'est une manière de punir, en fait, et de se dire, bah non, mais les pauvres, ils ont le droit de venir, il faut juste qu'ils respectent le règlement.
Absolument.
Mais est-ce que si on prend l'inverse, on a envie d'un monde où, quand t'es riche, t'as pas besoin de respecter le règlement?
Là, on est face vraiment à est-ce que la bibliothèque, c'est le reflet de la société, hein.
Parce que ça, c'est évidemment ce qu'on va retrouver partout quand on commence à mettre des caps aux sommes qu'on peut payer aux prud'hommes et autres joyeusetés du genre.
Absolument.
Mais est-ce que c'est ça pour nous le monde qu'on veut? Parce que des manières sinon de punir qui sont égales, il y en a, hein. C'est-à-dire, bah ouais, tu peux pas emprunter quand t'as des trucs en retard de plus de temps, tu peux pas, enfin, faut rendre tes machins avant. Truc dont on pourrait d'ailleurs questionner le bien fondé, mais qui.
Oui,
ont
aussi, oui, bien sûr. Ouais.
Au moins l'avantage de mettre sur un pied d'égalité les gens entre eux et pas sur des critères financiers.
Là où c'est intéressant, c'est aussi de voir les expérimentations qui peuvent avoir lieu sur ces trucs-là. En mode, bah voilà, il y a plein de règlements qui imaginent qu'on peut pas emprunter plus de tant de bouquins ou tant de trucs, parce que c'est important quand même, parce que sinon il y a quelqu'un qui pourrait arriver avec un caddie et prendre 500 bouquins.
Brouetteman qui vient avec sa brouette les samedis matins à la bibliothèque.
Ça arrive, donc on va limiter à 5 livres plus 5 BD. Alors déjà, voilà, 5 livres ou 5 BD, on fera pas ce débat-là cette fois-ci. On va limiter ces trucs-là et c'est comme ça qu'on garantit un cadre collectif qui marche bien. Sauf qu'il y a de plus en plus de réseaux là qui fonctionnent aussi avec des prêts illimités en disant bah tu prends autant que tu peux emporter, quoi, tu vois, c'est simple.
Et Jean-Philippe Brouette, a priori, il a pas
Jean-Philippe
mis encore
Brouette,
un mal.
Bah, peut-être il vient, mais en fait il est seul tout, donc c'est pas très grave en fait. En vrai, il y a pas une pénurie qui s'est organisée et tout va bien. Et pareil sur la notion de prêts illimités aussi dans le temps. Il y a des expérimentations qui sont intéressantes. On retrouvera des trucs à vous mettre dans la description pour ça. C'est aussi un enjeu de se dire il y a une conscience collective en fait tout simplement qui est de dire bah tu viens emprunter des bouquins à la bibliothèque, tu viens les rendre. Après, qu'il y ait des gens qui aient besoin d'un peu plus de temps parce que voilà, mais si tu lui prêtais 6 semaines au lieu de 3, ça changerait rien. Il serait quand même à la bourre parce que bah juste il y a des gens ils ont cette façon de s'organiser où c'est plus compliqué ou alors juste ce trait toxique de dire je serais systématiquement à la bourre, tu vois, et c'est ok.
Puis parfois en fait t'as du mal à t'organiser non pas parce que t'es un éternel enfant, parce qu'en fait t'as 4 gamins et que
parce
qu'il
y a pas de situation
plus important dans ta vie que rendre tes bouquins à temps et ouais, en fait, c'est plus important.
Et ouais.
C'est hyper intéressant de se dire qu'est-ce que je donne comme liberté à des gens, liberté profonde de pouvoir jouir pleinement, emprunter aussi longtemps que je veux, beaucoup d'ouvrages et tout. Et est-ce que les effets problématiques que ça va avoir, les livres non rendus, en effet Jean-Michel Brouette qui en fait n'existe pas, mais mettons même qu'il existe, est-ce que ce coût-là est supérieur à ce que je vais retirer de ces règlements très permissifs?
Absolument.
Si je prends un exemple, pour moi, c'est vraiment cette question de la nourriture.
Ouais.
T'as une bibliothèque où tu vas boire et manger. C'est hyper faux de dire que t'auras jamais de miettes par terre, que t'auras jamais de café renversé. C'est une certitude. Au demeurant, dans les bibliothèques où j'ai bossé, où c'était interdit, t'avais quand même des miettes par terre et du café renversé, sauf qu'on venait pas te le dire.
Hein. Bien sûr. Ouais.
Mais la vraie différence, pour le coup, c'est que quand tu vois ce que ça fait un samedi après-midi où tu te balades avec un thé à la menthe, quand tu vois ce que ça peut donner, solutionner un conflit avec un usager, quand vous savez quoi, asseyez-vous, là je vous sers un thé à la menthe et on parle. Quand tu vois en fait ce que ça fait de pouvoir te mettre dans les cadres de la convivialité dans tes échanges avec les gens, et bah tu réalises en fait que ouais, tes miettes de pain au chocolat, elle coûte pas si cher que ça, en fait.
Ouais, c'est ça, parce que tu déplaces vraiment les, tu déplaces un peu les lignes en faisant ça. Tu déplaces la ligne de, je suis là pour résoudre un conflit avec mon étiquette de détenteur de l'autorité, du pouvoir, de la puissance locale. Ah, ben non, on a un cadre convivial, on est des habitants d'un lieu, des occupants d'un lieu, et on va en discuter comme des grandes personnes parce que nous sommes des grandes personnes.
T'as l'exemple du Garaget,
ouais,
dans la banlieue de Malmö, où les habitants, ils ont les clés de la bibliothèque.
Il est incroyable cet exemple, et j'aimerais bien qu'on rediscute avec les gens là-bas et qu'on voit un peu comment ça évolue avec le temps, parce que ça fait ça doit faire 7-8 ans qu'on en parle.
Et moi, j'adore en parler, non pas comme c'est hyper important de donner les clés de la bibliothèque à tout le monde. Je pense que c'est intéressant, mais c'est peut-être pas forcément là que ça va. Ce qui est plus intéressant, c'est de se dire, tu peux avoir une bibliothèque où les usagers ont le droit de venir la nuit, ils ont les clés du lieu, ils peuvent bouger le mobilier, ils ont une voix au chapitre concernant les règles, et en fait, tout va bien. C'est-à-dire qu'il y a eu des problèmes, hein, fondamentalement, mais comme dans beaucoup de bibliothèques, mais il n'y a jamais eu de problème d'un niveau tel qu'il faut arrêter. C'est-à-dire que ce qu'on imaginait au début pour les détracteurs, c'était l'incendie dans la bibliothèque, la violence, le vol de mobilier en masse.
Ouais.
Et ben ça, y a pas eu, en fait. Et je trouve ça hyper intéressant de se dire que les modèles de société basés sur la confiance qui fonctionnent, en fait, il y en a. Et que c'est pas une impossibilité de bisounours de se dire que un monde où de temps où tu peux faire très confiance, que de temps en temps ta confiance en effet elle est trahie, mais que cette trahison ne remet pas en cause le fait d'essayer d'offrir un règlement qui soit le plus basé sur la confiance pour tout le monde. Et de se dire que de temps en temps les gens vont se planter, vont faire de la merde, mais que 99% du temps en fait s'ils pouvaient faire autrement, ils feraient autrement.
Ouais, et puis je crois que c'est intéressant aussi de se saisir de cette possibilité qu'on a en bibliothèque. On le rappelle assez souvent que il y a pas un enjeu de fou, tu vois. C'est pas un hôpital. On fait autre chose, quoi. C'est ok d'essayer d'expérimenter. On a tous envie que la société elle évolue vers plus de bien-être, plus qu'elle soit plus pacifiée, plus équilibrée, qu'il y ait plus de confiance, que le monde y soit plus beau. On a tous envie de ça.
Alors pourquoi on se comporte comme des matons, quoi ?
Mais voilà, quoi. Autant essayer d'expérimenter à notre échelle là-dessus. Et ouais, la confiance, elle se gagne, elle se mérite, mais ça veut dire aussi qu'il y a un moment où il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse le premier pas de la confiance. Et bah c'est là où on a un taf, en fait. C'est que nous, on est dans une posture professionnelle, donc autant faire ce premier pas de la confiance, nous.
Et que t'entends, si cette confiance elle est trahie, ça remet pas en cause l'idée même de la confiance. Ça implique simplement en fait de voir à quel point c'est un problème structurel, on a une règle qui peut pas fonctionner, à quel point c'est un cas particulier, et si oui, en quoi il est particulier et pourquoi. Ouais. Et c'est toujours ce truc des initiatives où on part sur quelque chose, où on se dit qu'on va vraiment être sur quelque chose de très ouvert, et où au premier pet, on arrête tout parce qu'on a l'impression soudain qu'on court droit dans le mur.
Ouais.
Alors qu'en fait, encore une fois, ouais, on est une bibliothèque. Ça va aller à la fin de la journée.
Bon voilà, c'était un petit épisode qu'on avait envie de faire sur cette thématique-là, parce que ça nous semble hyper important de là encore de se poser plein de questions, quoi. Et si on voulait un peu résumer à grands traits ce qu'on s'est dit, ce qu'on a trouvé à gauche à droite, ce que vous pourrez trouver dans la description. Bah, l'idée, c'est de toujours essayer de remettre en contexte, de se dire que les règles, les règlements, ce qu'on se donne comme fil directeur, tout ça, c'est contextuel, quoi. Et que du coup, ça amène à une remise en cause régulière et une rediscussion régulière.
Que ça implique, du coup, en permanence, de se demander si là, face à ce problème de règlement, on est tourné dans un jeu de pouvoir. C'est important de garder la face.
Ouais.
Et à quel point, en fait, on est en train d'incarner ce qu'on ne veut pas être. Parce qu'on est en train d'incarner quelque chose entre le marteau et l'enclume qui doit faire respecter quelque chose qui n'est pas respectable en tant que tel.
Mmh. Ouais, carrément. Et puis, se saisir de cette possibilité qu'on a, puisqu'on est dans des bibliothèques, de tenter le coup, de tenter le coup de la confiance, de tenter le coup de tout ça pour vider vraiment ces règlements de toutes ces questions atroces et paradoxales de pouvoir. pouvoir et de punition, etc.
Et de pouvoir peut-être prétendre à une forme de joie, puisqu'on en parle souvent.
Bah ouais,
du coup. Joie de se dire qu'on est relativement en accord en ce qui nous semble les objectifs de la bibliothèque, la lecture publique pour tous de manière inconditionnelle, et la manière dont elle le met en place.
Ouais.
Le fait de se dire que ce qu'on fait est cohérent avec nos idéaux, la manière dont on perçoit notre métier, les choses qu'on a envie d'incarner au quotidien, la personne qu'on a envie d'être face aux usagers.
Mais en fait, voilà, en tout cas, on est preneur de vos retours là-dessus parce que, évidemment, que tout le monde a des situations qui sont très différentes. Donc, c'est quoi vos pratiques à vous ? Qui est-ce que vous punissez ? Comment est-ce que vous êtes mis d'accord avec vos collègues sur ça ? C'est quoi les trucs qui marchent, les trucs qui marchent pas ? On vous laisse la zone commentaire pour ça avec plaisir.
Carrément. Et puis, si on veut parler de la question de la punition, après les risques qu'on peut trouver dans le DU, le document unique, on pourrait par exemple essayer de mettre en place. La bibliographie documentaire de satisfaction des masses pour essayer de voir un peu vos pratiques autour de la punition. Et ce serait hyper intéressant de voir ce qu'on ressort.
Bien sûr, ouais, bien sûr. Bon, en attendant, portez-vous bien et on se recale au prochain épisode. À bientôt.
À
des
bientôt.
Bisous.
Spectre.
Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Les usagers qui veulent pas payer, on va tous les taxer.